stérilité d'Abraham alors qu'il a les promesses du futur dans la foi et dans la religion. Donc il prend une femme de second rang, car la polygamie s'est quand même mise aussi dans la religion adamique par décadence. Il prend une femme de second rang dont il a un enfant, Ismaël, et Dieu lui dit « Non, c'est avec ta femme, ta première femme, que tu auras cette descendance. » Donc il attend. Vous avez Sarah derrière qui rit de cette promesse divine. Il faut voir qu'Abraham, lui, a des locutions comme des voyantes, comme Bernadette, comme Catherine Labouret. Hein. Sauf que comme c'est dans la Bible, là, on doit y croire. On est obligé d'y croire. Dans les apparitions reconnues par l'Église, on nous demande de nous taire si on n'y croit pas, parce que providentiellement, l'Église s'est prononcée. Mais on n'est pas obligé d'y croire. Que Dieu parle à Abraham, on est obligé d'y croire. Et donc là, Abraham a cette promesse, se rapproche de sa femme, il a 84 ans, elle en a 80, je crois, et l'enfant va naître. Et dans la providence divine, qu'est-ce que va faire Dieu? Alors que l'enfant est adolescent, Dieu demande à Abraham de faire un sacrifice humain. Voyez-vous, dans nos vies, Dieu peut nous demander de croire tellement dans la vie éternelle que d'accepter la mort d'un être cher. Mais à cette époque, il faut dire à l'humanité la puissance divine et il demande un sacrifice humain. Alors, pour les Arabes musulmans, ils ont un peu changé la Bible dans le Coran et ils ont remplacé Isaac par Ismaël. Mais c'est pas juste, voyez. Mais c'est pour tirer la couverture, voyez. Non, c'est Isaac. Et là, alors qu'il monte avec Isaac et qu'il représente une très grande providence divine, Dieu est amour. Abraham représente le Père. Isaac représente Jésus. Et Dieu, le Père, nous donne son Fils. Voilà ce que c'est que le sacrifice d'Abraham. Donc c'est beaucoup plus beau qu'un sacrifice humain. Beaucoup plus beau. Parce que c'est nous qui allons tuer Jésus. C'est pas le Père, hein. Ah oui, mais alors vous dites quoi? Il veut que Jésus meure pour nous racheter? Il permet. Et dans la théologie, on dit « il veut permettre », car c'est un péché que de tuer Jésus. Et Jésus dit à Ponce Pilate « ton péché est moins grand que celui de ceux qui me livrent à toi ». Il est là, supplicié, et il dit à son juge « t'es un pécheur ». Et il dit que ceux qui l'ont livré sont pécheurs. Et pourtant, il va dire sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comme nous dit saint Thomas d'Aquin, voyez-vous, certains savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Et même certains croyaient même en la messianité de Jésus et voulaient quand même tuer le Messie. Et les plus lucifériens croyaient peut-être même en la divinité de Jésus. Alors là, c'est le summum. Mais Lucifer, lui, se doute de la divinité de Jésus, veut le tuer quand même, pour voir ce que ça va faire. Et comme dans le film La Passion de Mel Gibson, dans ce film, Lucifer se serait aperçu de son erreur après la mort de Jésus. Et on le représente fou de rage dans le désert. Parce qu'il comprend que d'avoir tué Jésus, c'est avoir tué l'agneau de Dieu, c'est avoir tué l'innocent, et les mérites infinis de cette mort détruisent le péché originel. Ce qui fait que pour Abraham et Isaac, c'est le signe de la mort de Jésus sur la croix. Il porte le bois, et Isaac demande à son père, « Où est la victime? Où est le bélier? Ou l'agneau? Dieu y pourvoira, mon fils. » Donc il porte le bois, qui va servir à brûler la victime, à faire l'Holocauste. Et ils arrivent sur le mont Moria, là où il y a actuellement la mosquée du Dôme, là où il y a eu ensuite l'autel des sacrifices du Temple de Jérusalem. Il pose le bois, il dit, petit, alors, Mais mon cher fils, installe-toi. Et donc, pour reprendre le Caravage, n'est-ce pas, il le plaque, et là l'enfant se débat, mais il ne se débat pas dans la Sainte Écriture. C'est le Caravage qui dramatise, voilà. Et il est comme un agneau, et il attend que son père le tue. Et comme dit le Saint Paul dans sa théologie qu'il a dictée comment dire, à son secrétaire, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'il a accompagné dans certains de ses voyages apostoliques, eh bien, parce qu'il termine l'Épître aux Hébreux par sa signature et par une adresse de sa main, donc le reste est sa théologie, hein, l'Épître aux Hébreux, et il dit, mais Abraham était persuadé que son fils ressusciterait. Alors, on n'a pas l'exégèse totale, est-ce qu'il serait ressuscité tout de suite après le sacrifice, ou il croyait en la résurrection finale et il faisait confiance en Dieu, de toute façon il savait que les morts ressuscitent. En tout cas, il offre son fils. Et là, vous avez l'ange qui arrête le bras d'Abraham et qui lui dit, là, tu as une totale confiance en Dieu. Et ta descendance dépassera comment dire, le sable du désert et les étoiles du ciel. Eh bien, actuellement, sur 6 milliards d'hommes, vous avez près de 3 milliards qui sont dans la descendance de la foi d'Abraham. C'est quand même considérable. C'est quand même un signe humain énorme. Je suis désolé. 3 milliards d'hommes actuellement sur Terre dépendent de l'histoire biblique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Malaisiens sont musulmans. Alors vous allez me dire, c'est une erreur, c'est une hérésie, le Coran. Oui, mais si vous voulez, dans les pierres d'attente de Dieu pour la fin des temps, tous les Malaisiens connaissent l'histoire biblique. C'est quand même pas rien. C'est fou. Les Indonésiens, vous avez déjà vu un Indonésien, comment dire, à Jérusalem? Ben oui, ils vont à Jérusalem, ils vont à la Mecque, parce que c'est là que Dieu a parlé. Alors, voyez-vous, dans cette providence divine, vous avez Saint Joseph, lui, il est le Juif. Il attend depuis des siècles. Et il est très pieux. Et c'est un homme très intérieur. On n'a aucune parole de Saint Joseph. Toujours très intérieur. Il a parlé, il n'était pas muet, hein, Saint Joseph. Et alors la Vierge Marie, la fille de Sion, l'Immaculée Conception, qui a été présentée par Joachim et Anne au temple pour être éduquée au temple, à 3 ans, à 5 ans. Et la Vierge Marie va vivre au temple comme descendant de Lévi et descendant de Judas, mais parce qu'elle est descendante de famille sacerdotale, elle a droit d'être au temple. Et suivant la tradition, comme elle s'était consacrée à Dieu, elle dit à l'ange Gabriel, mais comment je vais avoir un enfant puisque je ne connais pas d'homme? Elle est fiancée, hein, elle a 16 ans, hein, et elle sait comment on fait des enfants. Et l'ange lui dit, tu resteras vierge, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Mais Joseph, lui, quand il voit sa fiancée enceinte, hein, on pense qu'il a 30 ans, ou il était veuf, suivant une tradition, ou il était un célibataire pieux, selon une autre tradition. Et donc, il va répudier sa fiancée de ce premier acte qu'étaient les fiançailles avant la vie commune dans la maison. Et donc, Dieu lui dit, non, 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 c'est le Messie. C'est le descendant de David. Reçois-le. Mais imaginez un peu pour lui l'épreuve que c'est. Mais là, c'est, si vous voulez, c'est une épreuve qui est dans la révélation et qui est biblique. Mais l'enfant va être. D'abord, il supporte cette épreuve, il croit en Dieu, mais il n'a pas de preuve absolue. Il fait un acte de foi comme Abraham, Joseph. Mais il croit profondément que la Vierge Marie est vierge et que cet enfant est le Messie. Il le croit vraiment, il en a eu la révélation, mais il a adhéré à cette révélation. Voir là la puissance d'humilité, de foi de Joseph. Et il va avoir le recensement. La Vierge Marie est enceinte. Ils vont devoir descendre. Donc il va emprunter un âne, ou c'est peut-être le sien, puisqu'il est quand même, il est charpentier, donc il fait des travaux, c'est la petite bourgeoisie. Eh bien, il descend avec la Vierge Marie, enceinte, jusqu'à Bethléem, l'origine de sa famille. Vous voyez, la Vierge Marie, elle est des deux branches, de Judas et de Lévi, mais Joseph, lui, est la branche de Judas. Et donc, et de David, c'est son ancêtre. Il est de lignée royale, comme son épouse, mais par, par son père, je crois que c'est Joachim qui était de Juda. Et donc, vous avez Joseph qui est là et qui ne cesse de réfléchir sur ça. Et ils arrivent à Bethléem, et le bon Dieu ne lui permet pas de trouver un lieu pour l'enfantement. Il va devoir trouver une étable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être même une étable creusée dans le roc, pour être préservé du froid. Mais c'est des étables, avec du fumier. Il met l'enfant dans la mangeoire. Il assiste à cette naissance. Cette naissance, l'enfant Jésus traverse le ventre de sa mère et l'hymen de sa mère, comme Jésus ressuscité traverse la porte, le mur du cénacle. Et vous avez récemment un évêque hérétique qui a dit « Il ne faut pas trop parler aux fidèles de la virginité physique de Marie, parce que c'est difficile à comprendre. Passons, passons, passons. » Oh là 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 là, mais si on n'a pas le courage de vous dire que la Vierge Marie est vierge, parce que c'est un signe providentiel divin que Dieu veut nous dire, « Je vais vous ressusciter. » Quand vous êtes malade, quand vous mourrez, quand vous avez des épreuves, je vous promets que la résurrection est une vérité. Jésus est mort et est ressuscité au bout de 3 jours. Il était tuméfié, il était flagellé. Mais ça ne suffit pas. J'ai ressuscité un cadavre en Lazare. Mais ça ne suffit pas. J'ai fait naître un enfant sans que l'hymen naturel de sa mère se déchire, alors qu'il est passé à travers les voies naturelles, mais avec un corps glorieux, dont une des propriétés est qu'il est lumineux. Donc Jésus aurait pu être comme dans la transfiguration dans la crèche. Imaginez Joseph et Marie qui entrent en extase en voyant Jésus sortir glorieux. Je ne pense pas qu'il est sorti glorieux, mais il pouvait l'être, son âme étant plongée dans la vision divine. Il est lumineux. Il est immortel, impassible, et il est subtil. C'est-à-dire que les atomes de son corps, la matière de son corps, est comme la lumière, avec les propriétés de la lumière, c'est-à-dire comme les photons passent à travers la matière. Les photons, c'est de la matière, hein. Ce sont des atomes, hein. C'est de la matière. Comme ils traversent le verre. Vous voyez ? Le corps de Jésus a traversé, s'est faufilé dans les atomes de la Vierge Marie pour sortir de son corps. Étoile ici, là et ici, Vierge avant, pendant l'enfantement et après. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la preuve que Dieu nous aime, c'est la preuve de l'immortalité alors que nous vieillissons. Alors est-ce que les mères de famille légitimes dans un bon mariage doivent dire « Ah, oh, mais mon hymen a été déchiré donc c'est pas bien ». Mais c'est la vie humaine que votre hymen soit déchiré. D'ailleurs, l'hymen, ça veut dire mariage en grec. C'est la membrane de la femme, mais c'est aussi le mariage. Mais si vous voulez, c'est pas pour vous vexer, c'est pour simplement signifier que le corps humain va participer de la vie divine qui est au-dessus de la vie terrestre et matérielle. Voilà. Alors, Joseph vit tout ça. Et à peine l'enfant est-il né, que vous remarquerez que dans l'évangile, ils ne restent pas dans l'étable. Ils sont dans une maison à Bethléem, et les mages viennent après. Ils rentrent dans la maison. Hein, mais on n'ose pas trop le représenter. Et ils apportent l'or, l'encens et la myrrhe. La puissance de cet enfant qui est le Messie, le roi des rois, la divinité de cet enfant, l'or, la divinité par l'encens, et l'humanité et la mortalité par la myrrhe, qui est une plante odoriférante qu'on mélange à de la crème pour faire une pommade pour embaumer les morts. Et Joseph a un songe et il doit emmener l'enfant après la visite des mages. Les mages ont un songe, et dans la statuaire moyenâgeuse, les songes, on représente la personne en train de dormir, les yeux ouverts. Il y a une très belle représentation des trois mages qui dorment, et ils ont les yeux ouverts. Et l'ange leur dit, vous partez par un autre chemin, que les espions d'Hérode ne vous voient pas, et qu'ils ne comprennent pas que vous êtes déjà partis. Or, il semble qu'ils aient dit à Hérode qu'ils étaient partis depuis 2 ans, et donc il a fait mourir tous les enfants de 0 à 2 ans. Et dans Bethléem. Alors certains disent des milliers, non, c'est tous les enfants du bourg de Bethléem. Hein, au moins une centaine ou une trentaine de bébés ont été poignardés. Eh bien voyez-vous, Joseph, il vit tout ça. Il part en Égypte. Et comme il est charpentier, il trouve un métier en Égypte. Et il reste combien de temps? On ne sait pas. Probablement plus d'un an, voire 2, voire 3. Alors, la légende dorée nous dit qu'ils ont voyagé. Il y a des pays qui revendiquent d'avoir eu la visite de Marie, Joseph et de l'enfant Jésus. Nous, on se limite à la Sainte Écriture pour cela. Et quand Hérode meurt, il revient à Bethléem. Et pour terminer sur Joseph, sa grande épreuve, c'est la perte de l'enfant Jésus. C'est la bar mitzvah, c'est la majorité religieuse de Jésus, il a 12 ans. Il peut lire au temple, il peut lire à la synagogue la Sainte Écriture, il est adulte. Et quand il repart de Jérusalem après la Pâque, Joseph pense qu'il est encore avec sa mère, avec les femmes. Et Marie pense qu'il est maintenant avec la caravane des hommes, mais au bivouac, ils se retrouvent et Jésus n'était pas avec eux. Il retourne à Jérusalem et le cherche pendant 3 jours, qui signifie les 3 jours de la Passion, enfin avant la résurrection. Et là, Marie dit, ton père et moi, hein, c'est vraiment merveilleux, on te cherchait, on était dans l'angoisse. Et là, l'enfant Jésus leur dit, mais pourquoi vous étiez dans l'angoisse? Pourquoi on était dans l'angoisse? C'est l'humour de Dieu. Hein. Et ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et là, pour Joseph, bing, hein, il est père adoptif. Hein. Mais imaginez ce qu'ont vécu Marie et Joseph de cet enfant pendant 30 ans. Joseph meurt juste avant le ministère public de Jésus, avec Jésus et Marie à ses côtés. Hein. Le patron de la bonne mort, mais il laisse son père mourir quand même. Hein. Il laisse son père mourir. Moi, je considère que la Vierge Marie n'est pas morte. Elle a eu l'apparence de la mort, on l'a menée au tombeau, et arrivée au tombeau, ils sont repartis, et Marie est montée au ciel, portée par des anges, et pour moi, l'âme de Marie n'a pas quitté son corps. Et un petit enfant, le petit Gilles, qui a eu accès jusqu'à Pie XII pour lui dire un ange m'a dit, ou la Vierge Marie, un ange, a dit ne mettez pas le mot mort dans l'encyclique sur l'Assomption. Et bien, voyez-vous, imaginez quand même Jésus qui a 30 ans et qui voit son père adoptif mourir. Vous voyez ? Pour Dieu, quel arrachement. Jésus pleure sur Lazare, qui était son ami, mais qui représente l'humanité. Qu'est-ce que Jésus a dû ressentir à la mort de Joseph, hein? L'indignation divine devant comment dire, le péché originel qui est à l'origine de tous ces péchés, toutes ces querelles, ces haines, ces insultes, ces coups, ces violences, et pour arrêter ça, la mort physique. Car Dieu a laissé entrer la mort dans le monde à cause du péché. Et même si les bébés meurent, même si les bébés sont mal formés, ont des maladies génétiques, c'est parce que l'homme doit mourir pour arrêter de pécher. Ah oui, mais alors les bébés, ils vont pas pécher. Mais nous sommes tous unis. C'est pour permettre à Hitler de mourir, c'est pour permettre à Staline de mourir que les bébés meurent, qu'il y a des fausses couches. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est la théologie catholique depuis des siècles et des siècles. Mais leur destin est différent. Et là où on estimait que s'il n'y avait pas de péché personnel, un enfant sans la grâce surnaturelle du baptême, était dans un bonheur naturel, ni au ciel ni en enfer. Eh bien, Jean-Paul II, dans le catéchisme de l'Église catholique, a dit, on recommande les âmes à la miséricorde de Dieu, ceux qui sont morts uniquement avec le péché originel, l'absence de connaissance de Dieu. Le baptême vous donne une connaissance de Dieu. Adulte, vous avez la grâce de cette connaissance et le baptême vous confirme dans cette grâce et augmente cette grâce. Mais bébé, elle vous est donnée de l'extérieur. Le parrain et la marraine, c'est une coutume humaine. On peut être baptisé sans parrain ni marraine. Mais c'est les mérites de Jésus qui nous sont donnés par la mort mystique de l'eau qui coule et qui nous noie et qui ne coule plus et on respire à nouveau et on est ressuscité. C'est ça le baptême. Et voyez-vous, pour Jésus, voir son Père mourir, mais c'est tout juste, on n'est pas passé à côté de l'Apocalypse à ce moment-là. Imaginez qu'il décide de scinder la terre en deux. Et voilà, c'est fini. Et là, on aurait été tous jugés à ce moment-là. Vous voyez, à l'époque, Marie, oh mon fils, ne t'énerve pas comme ça. Vous voyez. Mais c'est tellement injuste pour Joseph, cette mort. Eh bien, la tradition orale nous dit que Joseph est ressuscité le jour de Pâques. Parmi tous les morts que saint Matthieu désigne, les justes qui sont apparus le jour de Pâques ressuscités dans la ville sainte à Jérusalem, il y avait bien sûr son père parmi eux, qui n'est pas forcément apparu à d'autres, puisque ça faisait 3 ans qu'il était mort. Mais Jésus a sans doute ressuscité son père, adoptif, hein, mais son père. Eh bien, voyez-vous, nous, on a toutes sortes de tribulations. Moi, j'ai connu un prêtre qui est né, depuis l'âge de 8-10 ans, il a eu la polio. Et il n'a jamais pu s'asseoir que sur une fesse depuis l'âge de 10 ans. Et c'était le père Roland Planté. Eh bien, cet homme est devenu prêtre et il a été admis prêtre alors qu'il était boiteux et comment dire, avec une jambe plus courte que l'autre, tout ça. À l'époque, il fallait une dispense hein, quand on est très malade pour devenir prêtre. Et c'était extraordinaire. Moi, j'ai assisté à ces dernières semaines et c'était mon confesseur pendant 2, 3 ans. Eh bien, voyez-vous, c'était un homme tout donné à Dieu. Alors qu'il a souffert toute sa vie. Parce qu'il avait des moments de très grande souffrance. Alors aujourd'hui, on m'a donné un autre exemple. Vous avez un bébé qui, à suite d'une erreur médicale, est tétraplégique à 98%. Mais elle a 48 ans, cette femme. Elle est nourrie depuis 48 ans. C'est le Vincent Lambert, mais personne ne l'a tué. Voilà. Elle est entourée de catholiques, donc elle est là. Et quelle est la vie de cette âme? Eh bien, elle a sa vie. Elle a son intelligence, elle a sa volonté. Et elle est plus heureuse que vous, peut-être. Parce que dans les moments où elle pense, et Dieu lui donne la grâce de lui parler, de prier, ne tuez pas quelqu'un dont vous pensez qu'il est. comme m'a dit un canard qu'on nourrit, qu'on gave. Vous vous rendez compte un peu ce que cette personne m'a sorti, hein? J'avais un couteau, j'étais en train de manger. Elle a risqué sa vie. Et moi, j'allais me reposer en prison. Mais alors, ça a été le crime de l'intégrité, tout ça, le bonheur. Voilà. Mais elle a dit, on la nourrit comme un canard. Je dis non, comme une femme, comme un être humain. Et à un moment donné, j'ai ébranlé un médecin qui me disait, mais est-ce qu'on pourrait quand même pas faire des analyses du génome pour éviter certaines naissances et éliminer certains embryons qui ont la maladie de c'est une maladie, la personne, tous les muscles se liquéfient, de Crohn. Oui, mais la personne termine comme ça. Et meurt étouffée, puisque les muscles de la respiration sont parmi les derniers. Et le muscle cardiaque est atteint. Ou c'est Charcot? Enfin, c'est des maladies terribles. Et, mais qu'est-ce que vous voulez? Ou on admet que Dieu nous aime, ou on ne l'admet pas. Et voyez-vous, actuellement, comme ça fait 2 siècles qu'on lutte contre Dieu, en France plus particulièrement, ben on arrive à avoir le cœur desséché et à ne plus croire en l'amour de Dieu. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on peut... moi, avec toute ma théologie intégriste, je vous dis quand même que Dieu est amour. Et qu'il y a même chez Marthe Robin, qui était là, recroquevillée, on ne savait même pas quelle maladie exactement elle avait, elle pouvait ni manger ni boire. Allez. Dans le livre de la postulation, le prêtre a mis qu'elle parfois, du coup, elle se cachait un peu, elle rampait pour faire ses besoins. Et des personnes qui ont été les proches de Marthe Robin ont dit au prêtre, mais qui vous a dit ça? Ben, peut-être quelqu'un m'a dit ça. Non, elle n'avait plus aucun besoin naturel, puisqu'elle n'avait rien entré en elle, sauf l'hostie, une fois par jour. Et un jour, quelqu'un lui a demandé, a eu l'outrecuidance, l'impudeur, mais la candeur de lui dire « Ah, mais comment vous faites pipi ?» Et Marthe Robin, qui était une sainte, lui a dit « Oh, mais vous savez, non, je ne fais plus jamais. J'ai plus occasion de le faire. » Excusez-moi de rentrer dans ces détails, parce que vous voyez, quand vous vous occupez de personnes malades, hein, à 85 ans ou autre et tout ça, c'est l'incontinence qui est quelque chose de terrible. Parce qu'au point de vue providence divine et permission divine, vous allez avoir les enfants qui meurent, les avions qui s'écrasent, un bébé qui est écrasé dans une voiture. Mais est-ce que vous avez pensé 2 secondes à l'humiliation absolument terrible qu'on vous torche tous les jours ? Au moment où vous ne pouvez plus vous occuper vous-même de vos besoins naturels. Là, vous pouvez vous révolter contre Dieu, perdre la foi, dire que tout, la religion, c'est l'opium du peuple, et c'est des conneries. Eh bien, pourtant, non. Parce que figurez-vous que tout le monde s'extasie devant un bébé. Or, un bébé, c'est un tube digestif. Ça rentre par là, ça sort par là, mais toutes les 2 heures. Demandez à une maman, hein, ça chie tout le temps un bébé. Eh bien, une maman, ça sent le caca toutes les 2 heures, et ça remplace et ça lave l'enfant toutes les 2 heures. Alors, quand vous êtes dans le désert ou dans des pays plus frustres, eh bien, l'enfant, il reste là-dedans un certain temps, hein. Mais nous, on est hygiéniste, alors il a fait popo, alors plique tout de suite. Donc vous avez des changes partout, au McDo, machin, partout. Enfin, donc voilà. Eh bien, pourquoi on fait ça à un bébé et pourquoi on ne ferait pas ça à une personne âgée? Pourquoi on ne ferait pas ça à Vincent Lambert? On est si inhumain que ça qu'on considère qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire ça alors qu'on le fait au bébé? Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Allez. On est quoi? On n'a pas. Vous voyez, moi je suis très cru, très direct et très franc. Donc c'est le genre de choses que je peux aborder, vous voyez, et je ne triche pas avec ça. Oui, j'assume qu'on s'occupe de légumes, mais ces légumes, ce sont des êtres humains. Vous voyez. Vous avez récemment un miracle, c'est pas un miracle. Aux États-Unis, vous avez un journaliste sportif qui tombe dans le coma. On l'emmène à l'hôpital, tout ça. Encéphalite, le cerveau gros comme une pastèque dans la boîte crânienne. Il dit, il est mort, il est cuit, son cerveau est cuit. Voilà, on arrête les machines. Ben, on a arrêté les machines. À la limite, c'était légitime. Ça peut être l'absence d'acharnement thérapeutique s'il était vraiment en train de mourir et qu'il n'y avait rien à faire. Ils ont tout débranché. Eux sont partis au funérarium. Il allait se faire cramer, le pauvre. Et c'est toléré par l'Église catholique, hein, si vous manquez d'argent et pour des raisons pratiques. Et normalement, on enterre le corps sans le brûler. Eh bien, il n'est pas mort. Son cerveau a désenflé et il s'est réveillé. Mais ce n'est pas un miracle. Il a continué à respirer. On a simplement coupé les machines et il n'est pas mort. En fait, on l'a euthanasié. Et on a raté le coup. Et du coup, l'hôpital était comme ça. Et au lieu, ils ont assumé de perdre la face. Imaginez qu'ils disent, mince. Voilà. Et puis voilà, c'était fini, hein. Hein? Eh bien, ils ont appelé et dit, il s'est réveillé, votre papa. Et eux, ils étaient en train de dire, ça coûte combien la crémation? Voilà. C'est pas un miracle, c'est simplement quelqu'un qui a échappé à une euthanasie. Parce que franchement, ils ont arrêté les soins très vite. Hein. En quelques jours, ils ont dit, oh, c'est pas la peine, allez hop, soleil vert. Et... Ben oui. Eh bien, voyez-vous, nous, dans nos vies, comment ça se fait qu'on a des parents méchants? Alcoolique et qui nous frappe. Comment ça se fait que notre sœur est morte à 5 mois? Comment ça se fait qu'on a la maladie de Crohn? Comment ça se fait que ceci? Comment ça se fait que cela? Eh bien, voyez-vous, pour terminer là où j'ai commencé, notre Père qui est aux cieux nous regarde dans nos vies, passées, présentes et futures, et il organise tout pour nous sanctifier. Il ne nous épargne pas. Pour certaines personnes, c'est oh Dieu est méchant parce que j'ai un contrôle fiscal. Dieu est méchant parce que j'ai été ruiné. Dieu est méchant parce que mon troupeau est mort. Dieu est méchant parce que tous mes canards ont été exécutés à cause de la grippe aviaire. Oui, mais où est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre? Vous voyez? Est-ce qu'on doit se suicider parce qu'on a perdu la face? Je vous recommande ces deux prêtres, ces trois prêtres qui se sont suicidés ces derniers mois. Un prêtre qui avait fait des avances à une femme de 18 ans, une jeune femme de 18 ans. L'évêque le convoque, lui dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai, je vois. Et il s'est pendu dans la semaine. Ensuite, vous avez un autre, pas dans la, il l'avait revu, il l'avait retiré pendant 3 mois de la paroisse, il l'avait remis, il savait plus où se mettre, et il s'est tué. Un autre, enfin, voyez-vous, et qu'est-ce qui s'est passé en eux? Ils étaient déshonorés. Alors, c'est difficile de vous dire de ne pas vous tuer, de ne pas euthanasier les personnes malades, et si nous, on désespère et on se tue. Mais il faut oser à un moment dire qu'ils ont péché, ces prêtres-là. Alors, avec des responsabilités plus ou moins fortes, s'ils étaient surmenés, s'ils étaient plus ou moins conscients de ce qu'ils faisaient. Oui, mais enfin, quand même, dans les temps passés, je peux vous assurer qu'on aurait été sévères, hein, et qu'on ne les aurait pas enterrés religieusement, même prêtres. Hein, si ça avait été public, leur suicide avait été public. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je vais me tuer, et puis vous m'enterrerez à Saint-Eugène. Parce que j'aurais fait ça dans un acte de désespoir. J'ai dit, vu que vous me le dites comme ça ne sera pas moi qui vous enterrerai. Pour éviter le scandale, on fera peut-être passer votre suicide comme un acte de folie. Mais vu que vous me le dites, moi, je ne vous enterrerai pas. Et je voulais lui faire sentir que le suicide était mauvais. Vous avez des personnes qui se suicident sans responsabilité, qui sont dans des spirales de dépression, mais absolument épouvantables. Il y a un jour comme ça, un homme qui avait fait des séances, des séjours en hôpital psychiatrique étudiant terrible. Il était guéri, il revenait, il avait des hystéries, il était maniaco-dépressif, mais authentique et profond. Il a 60 ans, sa femme a 55 ans. Ils sont dans le salon. Il avait été stabilisé, tout ça. Voilà, ça avait duré plus de 30 ans, 20, pardon, plus de 20 ans, tous ses séjours à l'hôpital et tout. Et là, il sentait une bouffée de désespoir, dont les personnes psychiatriquement atteintes ont le secret. On sait qu'est-ce qui se passe dans notre pauvre âme, dans notre pauvre corps. Est-ce qu'il y a des carences d'hormones, tout ça. C'est vraiment encore mystérieux. C'est la médecine. Des personnes qui meurent d'un cancer, c'est plus simple. Et bien là, il avait cette bouffée de tristesse épouvantable. Il dit à sa femme, « Je t'ai toujours aimé. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire souffrir. Mais je t'aime de tout mon cœur. » Et la femme dit, « Merci. » Voilà. Il part dans le garage et il se tire une balle dans la tête. Mais dans les 5 minutes qui ont suivi, il ne voulait pas retourner à l'hôpital. Et moi, j'ai la sœur d'une connaissance, une bonne connaissance. Quand on lui a annoncé son troisième cancer, sa deuxième récidive de cancer du sein, avec métastase, elle est sortie du bureau du médecin, tout ça. On lui a décrit le nouveau machin, tout ça. On venait pas de lui annoncer, mais on lui avait deux semaines après son troisième cancer qui arrivait, on lui expliquait comment ça allait se passer et tout ça. Elle est sortie du bureau, elle a ouvert la fenêtre et elle s'est défenestrée du 6e étage de l'hôpital. Oui. Alors comment voulez-vous la juger? Comment voulez-vous dire elle a péché? Il faut être con pour dire qu'elle a péché. Oui. Mais si vous voulez, dans l'ancien temps, on était sévère avec les suicidés, parce que si vous voulez, il ne faut pas encourager la tristesse humaine. Vous voyez, il ne faut pas l'encourager. Comme disait Michel Aupetit, lors de la discussion sur les lois bioéthiques, il y avait une dame qui disait l'euthanasie, l'euthanasie, l'euthanasie. Elle dit, vous savez, en venant ici, il y avait un monsieur sur le pont Alexandre III qui voulait se jeter dans la Seine. Alors j'ai hésité. J'ai dit, il doit être dans un état de tel désespoir qu'il vaut mieux pour lui qu'il saute. Ou alors je vais le dissuader. Qu'en pensez-vous? Et là, il est devenu pétrifié. Ben oui. Et quand vous avez des gens qui sont malades, qui vous supplient, Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus disait, j'avais des telles souffrances que je disais aux infirmières, à l'infirmerie, écartez les remèdes parce que toxiques en quantité. Écartez-les, je vais me tuer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'écrit, qu'elle avait des bouffées de suicide. Vous voyez, à cause de ses souffrances à l'estomac qui étaient épouvantables. Vous voyez. Et bien là, si vous voulez, on est face à toute cette misère humaine. Et malgré tout cela, Dieu, lui, sait quel est l'état de notre conscience. Et nous jugera sur la finesse de ce que l'on veut, de ce que l'on comprend et de ce que l'on veut. Et Dieu est amour. Et donc il va illuminer nos consciences, il va illuminer notre volonté pour qu'on se sauve. Et celui qui désespère avec haine et envie et qui se damne, le fait librement et consciemment. Et donc la providence divine consiste à ne pas nous épargner des épreuves, mais à faire en sorte qu'on mérite, qu'on donne du fruit dans des bonheurs et dans des malheurs, pour qu'on aime et qu'on espère. Pour qu'on espère et qu'on aime. Nous avons été créés pour espérer et aimer, et au-delà de la vie terrestre.